Peter, comment te dire les choses autrement? Réfléchis. De l'eau empoisonnée à usage interne et externe pour des pauvres malades qui ont recours à nous en toute confiance et qui payent le prix fort pour recouvrer la santé.
Et tu finis par conclure que nous devons construire un égout pour évacuer les immondices présumées de mold d'haleine et qu'il nous faut modifier les canalisations.
Oui, tu vois une autre solution? Pas moi.
J'ai saisi ce matin l'occasion de passer voir l'ingénieur municipal. Et j'ai évoqué, en plaisantant à moitié, ces propositions comme des mesures que nous devrions peut-être envisager un jour dans le futur.
Un jour dans le futur?
La souris de mon extravagance, évidemment. As-tu pris la peine de réfléchir à ce que nous coûteraient ces modifications? Ben, premier renseignement, les dépenses s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers de couronnes.
C'est si cher que ça?
Oui, et il y a pire. Les travaux prendraient au moins 2 ans.
2 ans? 2 années pleines?
Au moins. Qu'est-ce que nous ferons des bars pendant ce temps-là? Devrons-nous les fermer? Ben oui, nous y serons forcés. Eh bien, tu crois peut-être que les gens viendront si la rumeur se répand que l'eau est insalubre.
Mais Peter, elle l'est.
Et tout cela maintenant, alors que l'établissement est en plein essor. Selon toute probabilité, il nous faudrait fermer cet établissement qui nous a coûté si cher. Et ainsi, qui aurait ruiné ta ville natale.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1883, en Norvège, la pollution de l'eau, la course au profit au détriment de l'intérêt général, la corruption des élites étaient déjà des questions dont le théâtre s'emparait. En 1883, Ibsen, installé à l'étranger, est un dramaturge reconnu. Derrière lui, ses années noires où l'alcool, ses dettes et l'échec de ses premières pièces l'avaient poussé à l'exil. Depuis, il a à la fois connu le succès et suscité le scandale, comme avec Maison de poupée ou Les Revenants. Dynamiteur de la morale petite bourgeoise et de l'hypocrisie puritaine, Ibsen va encore plus loin avec Un ennemi du peuple, où son anti-héros, le bon docteur Stockmann, d'abord aimable lanceur d'alerte, finit par vomir sur la démocratie, triomphe des médiocres. Étrange pièce que cet ennemi du peuple, corrosive dénonciation des faux-semblants de la société, mais traitée en comédie dans laquelle presque aucun personnage n'échappe au ridicule ou à l'abjection. Jean-François Civadier a, pour la mettre en scène, reconstitué sa troupe de comédiens fétiches, dans laquelle Nicolas Bouchaud, en Dr Stockmann, se retrouve face à Vincent Guédon, son frère ennemi, préfet et maire de la ville, reformant un duo qui rappelle ceux qu'ils ont déjà expérimentés dans Le Misanthrope, Don Juan ou La vie de Galilée. Leurs échanges y résonnent évidemment fortement avec nos actuels débats. Un ennemi du peuple est à l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'au 15 juin, puis en tournée en France jusqu'en février 2020. Bonsoir Jean-François Civadier.
Bonsoir.
Nicolas Bouchaud.
Bonsoir.
Jean-François Civadier, vous aimez bien ces pièces dans lesquelles un homme, seul, en butte à la médiocrité, au trafic, à l'adversité, à la trahison, se retrouve sur scène, en général c'est Nicolas Bouchaud, en face de Vincent Guédon. C'est un duo qui fonctionne bien, on les a vus dans Galilée, dans Don Juan. Et c'est un ressort dramatique qui suscite chez vous l'intérêt pour une pièce.
L'idée de la révolution, par exemple, qui a
oui,
dans la pièce.
D'avoir ce duo, exprime les deux faces d'un problème.
Ouais, ce duo, il existe depuis maintenant presque 20 ans. Donc Nicolas et Vincent. Et effectivement, moi, quand je vois ces deux acteurs sur le plateau, j'ai l'impression que c'est un peu deux parties de moi-même. Donc, pour ce dialogue, par exemple, qu'il y a dans Un ennemi du peuple, ce travail de dialectique comme ça, c'est intéressant d'avoir ces deux acteurs qui sont totalement différents et totalement complémentaires. D'ailleurs, c'était assez beau parce que comme ils ont normalement dans la pièce un passé, évidemment, leur enfance entre eux, je leur disais que leur enfance, c'était finalement ce qu'ils avaient traversé ensemble pendant 20 ans sur le plateau. Donc mais c'est vrai que c'est un moteur de la représentation, ouais.
Mais cet ennemi du peuple d'Ibsen, c'est une pièce quand même très différente par rapport à toutes les pièces d'Ibsen dans lesquelles il y a quand même une morale. Là, il n'y en a pas, on a l'impression que Ibsen dynamite lui-même sa propre écriture dramaturgique.
Ibsen, c'est un dynamiteur. Hein. Je suis même pas sûr que dans ses autres pièces, il y ait vraiment une morale. C'est-à-dire qu'il vient vraiment, c'est un provocateur, il vient poser des bombes sur le plateau, il vient poser des questions auxquelles il n'apporte aucune réponse. Alors évidemment, L'ennemi du peuple, c'est une pièce complètement à part, puisque c'est la pièce... Pièce la plus claire, la plus limpide, presque manichéenne à certains moments. La plus drôle aussi, c'est franchement une comédie. Et puis, pour la première fois, on a vraiment l'impression qu'Ibsen, il vient lui-même, un peu comme le fait Molière avec Don Juan et Tartuffe après avec Don Juan et le Misanthrope après la censure de Tartuffe, que Ibsen, il vient lui-même sur le plateau affronter ses ennemis, ses détracteurs, et comme dit Stockmann, au cinquième acte, leur fracasser son encrier sur le crâne, c'est-à-dire attaquer frontalement tous ceux qui l'ont traîné dans la boue et qui ont voulu faire de lui un auteur pervers, immoral, dangereux pour la société norvégienne. Et donc voilà, effectivement, c'est comme un manifeste, cette pièce. Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, je pense que la violence de ce que Ibsen a à dire est proportionnelle à la limpidité de la fable.
Alors dans Ennemi du peuple, on a tendance, nous, public d'aujourd'hui, à entendre des échos de ce qui agite notre société depuis déjà un certain nombre de temps. Il y a l'écologie, il y a le problème de l'urgence écologique, il y a le problème de la trahison des élites, il y a le problème de la montée du populisme. Il fallait pour cela une traduction d'aujourd'hui, et c'est Éloi Recoin, grand traducteur, s'il en est, grand spécialiste d'Ibsen, qui l'a fait, on l'écoute.
Je suis très attentif à la lettre du texte. Et dans le cadre d'un ennemi du peuple, c'est particulièrement important, étant donné les enjeux idéologiques, si je puis dire, et politiques qui sont à l'œuvre dans cette pièce. Et donc il faut être extrêmement précis sur le choix des mots, dans le choix du lexique, et dans l'évolution à l'intérieur de la pièce des éléments du lexique. Et donc, par exemple, parmi cette attention à la lettre du texte, je suis toujours très sensible à la question de la cohérence lexicale de chez Ibsen, on le voit, les mots circulent, les signifiants circulent à l'intérieur de l'œuvre, se transforment, se métamorphosent. Et c'est en suivant précisément cette métamorphose que l'on rend compte de l'évolution de la pensée du personnage. Un autre élément, cet usage que fait Ibsen dans sa ponctuation, qu'on appelle les traits pour la pensée, si on traduit le terme norvégien, qui marque autant d'arrêts, de syncopes dans la pensée des personnages. Et ils sont des indices dans la partition pour l'acteur, et c'est pourquoi je suis extrêmement attentif aussi à tous ces éléments qui témoignent de l'inscription du corps de l'écrivain dans son écriture.
Nicolas Bouchot, on vient d'entendre Éloi Recoin parler de cette langue si particulière dans Un ennemi du peuple, avec des arrêts comme on peut nous les avoir quand on est dans une conversation où on s'implique. Il y a une grande implication du corps, ce qui n'est pas pour vous déplaire en général. Comment est-ce que vous avez abordé cette espèce de déferlement de paroles dans lequel, au fond, Stockmann va lui-même se noyer
à l'acte 4. Quand il est devant l'assemblée du peuple.
Et où il se retourne, parce que, ou de sympathique, il devient antipathique.
Absolument. Ben, c'est toujours un peu, c'est quand même toujours très agréable, et c'est toujours un grand bonheur quand on est acteur, que de jouer, que d'avoir affaire à ce genre de retournement. C'est-à-dire que, dans la pièce Un ennemi du peuple, Thomas Stockmann, dans la première partie, apparaît clairement comme celui qui détient à juste titre la vérité sur la pollution des bains. Donc on peut effectivement l'assimiler, on dirait aujourd'hui, à un lanceur d'alerte. Et puis quand tout le monde s'est retourné contre lui, il devient une espèce de harpie dans cette assemblée, et il commence à parler du peuple en disant que le peuple, la majorité compacte, c'est le véritable ennemi de la liberté et de la vérité dans la société, et donc il développe une sorte de discours clairement antidémocratique, qui est le discours à peine déformé de ce que Ibsen pensait et de ce qu'il écrit dans ses lettres à son ami Georges Brandès, quand il dit par exemple, Ibsen, « L'État est une malédiction pour l'individu. Combattre l'idée d'État, représenter l'initiative individuelle et ce qui s'y rattache dans l'ordre psychique comme la condition essentielle à toute association, c'est le commencement d'une liberté qui vaut cher. » Donc ce que prône Ibsen, c'est effectivement la liberté individuelle. C'est ce que dit Stockmann à l'acte 4. Mais là où Ibsen est un génie, parce qu'il écrit du théâtre, c'est qu'évidemment, il lui fait pas dire ça comme dans un discours un peu lénifiant. Stockmann est projeté devant cette assemblée du peuple à l'acte 4, mais il n'a pas les moyens lui-même de son propre discours. Puisque lui, il est médecin, il découvre une chose, il a la vérité, mais quand Hofstadt, le journaliste, interprété par Sharif Andoura, le pousse en lui disant « Mais votre découverte, elle a une portée bien plus grande que ce que vous imaginez, ça va nous permettre de libérer les gens qui souffrent dans la société », journaliste qui va se retourner deux scènes plus tard contre Stockmann. Donc il est poussé dans l'arène politique, mais il n'est pas un personnage politique lui-même. Voilà.
Mais d'ailleurs, dans votre mise en scène, à tous les deux, Jean-François Sivadier, en l'occurrence, c'est à vous que je vais poser la question, au fond, ce docteur Stockmann, au départ, il est, comme le dit Nicolas Bouchaud, juste un médecin, un savant, mais on n'a pas tellement l'impression que c'est ensuite dans la politique qu'il devient cet orateur fou. On a plutôt l'impression, c'est comme ça que j'ai eu le sentiment que vous l'aviez monté, que c'est en fait un homme blessé dans son ego, c'est-à-dire qu'on lui fait miroiter un avenir de héros national, de bienfaiteur. On lui dit que ça sera à lui de prendre la tête de cette municipalité, donc de prendre le pas sur son frère. Et c'est quand il se rend compte qu'il est trahi, qu'il va péter les plombs. C'est pas tellement un raisonnement politique. On a l'impression que c'est une blessure personnelle, une blessure d'ego.
Alors, une blessure d'ego, vous avez raison, et en même temps, je dis qu'il faut peut-être se méfier de la posture romantique quand on lit la pièce. Parce qu'effectivement, la tentation, d'ailleurs, c'est les spectateurs ne peuvent pas s'empêcher, malgré ce qu'on fait dans le spectacle, de considérer Stockmann comme un héros, donc très vite comme une victime. Mais effectivement, il y a une chose très ironique et très troublante dans la pièce, c'est que finalement, on voit au début un petit médecin de province, donc un homme de la société civile, qui va se confronter à un pouvoir médiatique et un pouvoir aujourd'hui, on dirait vraiment au lobby, qui vont essayer de faire de lui un instrument, un homme providentiel pour essayer de renverser le pouvoir en place, et éventuellement, voire même de le mettre à la place de son frère sur la chaise du préfet, etc. Et l'ironie, c'est que cet homme qu'ils ont choisi comme homme providentiel, c'est Ibsen lui-même. C'est-à-dire un homme qui ne croit absolument pas la politique, qui n'a aucune empathie pour la collectivité, la solidarité, qui ne croit pas du tout dans l'honnêteté, dans l'intégrité des hommes de pouvoir. Et donc c'est Ibsen lui-même et aussi son clown qui est lui-même le docteur Stockmann et qui est totalement excessif, qui se construit d'abord contre les autres et qui en plus devient extrêmement gonflé de ses propres paroles, de ses propres délires, et donc ils ont choisi finalement la mauvaise personne. Donc après effectivement c'est comme un homme blessé, mais c'est plutôt une bête fauve blessée, c'est-à-dire que il frappe dans tous les sens parce que finalement, il commence à perdre le sens de son combat, qui était un combat légitime. Mais tout ça, c'est intéressant parce que, évidemment, par rapport à aujourd'hui, tout ça résonne très fortement à un point que je pense qu'on n'avait même pas mesuré à quel point les gens allaient reconnaître de manière sensible l'époque d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est vrai que quand on écoute attentivement le texte, et la traduction d'Éloi Recoin nous aide à entendre le texte mot à mot, et puis aussi le jeu de vos acteurs, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous correspondent complètement, et c'est assez difficile quand on est dans le public de démêler ce qui est tout à fait applicable à nos sociétés d'aujourd'hui de ce qui tout d'un coup déraille, parce que dans la même phrase, il y a quelque chose avec lequel on est d'accord, et sans même qu'il y ait d'arrêt, de virgule ou de point, tout d'un coup ça se retourne dans quelque chose qui est horriblement insupportable. On va écouter pour le plaisir aussi un petit extrait qui fait réagir le public sur ce que la démocratie aujourd'hui en butte au lobby et au pouvoir politique.
Je suis aussi d'avis que l'agitation du docteur cache une arrière-pensée. Il parle du bain, mais c'est à une révolution qu'il aspire. Il veut transférer le pouvoir en d'autres mains. Personne ici ne doute de ses bonnes intentions. Il ne peut pas y avoir divergence d'opinion là-dessus. Je suis moi-même un ami de la démocratie, à condition qu'elle ne coûte pas trop cher aux contribuables, c'est-à-dire à vous, mes amis. Or, ce serait le cas ici. Et par conséquent, je ne peux pas donner raison au docteur. Même de l'or peut valoir trop cher. Voilà mon opinion.
Le règne de l'argent, c'est le règne du contrôle.
Merci. S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Hofstadt.
Bonsoir à tous. Moi aussi, je me sens obligé de rendre compte de ma position. L'agitation du docteur a semblé rencontrer tout d'abord une large approbation, et je l'ai soutenue, en toute impartialité. Mais par la suite, nous nous sommes aperçus que nous avions été trompés par une présentation fausse.
Fausse !
S'il vous plaît, de mieux en mieux, là !
Disons par une présentation pour le moins fallacieuse, et le compte-rendu du préfet l'a prouvé. Alors j'espère que personne ici ne doute de mes convictions progressistes.
Personne !
L'attitude, la position du messager du peuple dans les grands débats politiques est bien connue de tous. Mais moi, j'ai appris. J'ai appris auprès d'hommes expérimentés et modérés que dans les affaires purement locales, un journal se doit d'agir avec une certaine prudence.
Voilà, on en vient d'entendre Stéphane Butel qui joue à Slaxen le représentant des petits propriétaires et Sharif Andoura Hofstadt, le journaliste qui d'abord attise la révolte du docteur Stockmann avant de le trahir lamentablement. Au fond, dans cette pièce, il y a surtout le règne de l'argent. C'est l'argent qui fait changer d'avis à tout le monde. C'est ça le nerf de cette pièce, Jean-François Sibelier.
Ouais. Mais dans beaucoup de pièces d'Ibsen, hein, dans ces pièces où il traite de la société bourgeoise norvégienne. Enfin, voilà, il y va fort avec l'histoire de l'argent. Dans Maison de poupée, au départ, il y a des répliques tout à fait vraiment comiques sur la manière dont ils sont obsédés par l'argent. Dans Un ennemi du peuple, dans l'acte 1, ils ne parlent que de ça, par exemple. Et puis, on voit dans l'acte 1, une société en parfaite harmonie avec elle-même tant que l'argent afflue. Et dès qu'il va y avoir un problème avec l'économie, tous ces gens-là vont devenir des monstres. Ça, c'est poussé. Enfin, voilà, c'est extrême dans la pièce. C'est presque jusqu'à la caricature que Ibsen dresse ce portrait de sa société. Et en même temps, ce manichéisme qui a sans doute un peu quand même dans la pièce. Moi, aujourd'hui, je le trouve plutôt. Je trouve que c'est une grande force de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pureté, de simplicité, d'absence même de complexité dans le récit, en tout cas dans la fable. Après, la pièce est extrêmement complexe, notamment en ce qui concerne Stockmann.
Mais c'est une pièce, j'imagine, qui n'est pas simple de monter. Vous avez beaucoup travaillé en amont, tous, sur le texte. Est-ce que cette mise en scène, comme ça, avec le premier plan, c'est l'appartement du médecin, et ensuite c'est la scène publique, ça vous a pris du temps, j'imagine, avant d'arriver au bout ?
La grande question, c'était...
L'acte 4.
L'acte 4.
Et oui. Oui, Nicolas
Bouchard. On travaille toujours en amont, Jean-François, Véronique Timsit et moi. Et donc, effectivement, notre question récurrente, enfin celle à laquelle on revenait dans nos réunions préparatoires aux répétitions, c'était l'acte 4. Aussi parce que, à l'époque, maintenant je ne le pense plus, mais je pensais... On disait, Ostermayer, quand il l'a monté... Les gens parlaient dans la salle.
2012 Avignon, oui.
Exactement. Mmh. Donc, il donnait la parole au public. Et donc, on se disait, mince, s'il ne l'avait pas fait, nous, c'est une chose qu'on aurait pu faire, par exemple, par rapport au théâtre qu'on fait. C'est une idée qui aurait pu nous venir assez facilement.
Oui, qui vient assez naturellement, puisque c'est une réunion publique dans laquelle le public intervient.
C'est une réunion publique.
Dans la
pièce. En général, on le fait très souvent avec quand même un quatrième mur. Mmh. Donc, il n'est pas question que les gens interviennent. Bon, lui, il l'avait fait ostensiblement. Et les gens parlaient. D'ailleurs, quand je l'avais vu, il parlait même de choses qu'il n'avait pas... forcément à voir avec la pièce, bon ça c'est une autre question. Et puis, moi je sais qu'il y a un truc qui s'est débloqué quand je me suis dit, mais en fait il faut faire exactement l'inverse, il faut dire, c'est pour ça qu'on fait ça à un moment, Stéphane Butel à Slaxen dit aux gens, bon ben maintenant on va vous donner la parole, et moi je lui dis, mais certainement pas, c'est moi qui parle. Et donc, on n'est pas en démocratie, c'est nous faites pas croire à une fausse démocratie, surtout par rapport au théâtre, etc. Et là s'en suit une espèce de texte sur théâtre et démocratie, le rapport public et tout ça. Donc on joue de tout ça. Donc une fois qu'on a commencé à penser à ça, c'est l'acte 4, c'est... Mais je me souviens, dans ces réunions, on disait souvent, l'acte 1, où tout le monde est réuni dans la maison de Stockmann, où c'est vraiment porte ouverte, parce qu'il y a ce côté-là au début chez le docteur Stockmann de...
Tout le monde passe et vient boire et manger.
Voilà, on parlait souvent de Timon d'Athènes, de Shakespeare. Enfin, c'est celui qui ouvre grand ses portes et dit « Mes amis, venez manger, regardez comme c'est bien chez moi » et tout ça. et que déjà dans l'acte 1, parce que c'est l'acte avec l'acte 4 où tous les personnages sont regroupés, il y avait déjà dans l'acte 1 quelque chose qui nous ramenait à l'acte 4, c'est-à-dire la communauté telle qu'elle est vue à l'acte 1, c'est-à-dire ensemble, fonctionnant à peu près bien ensemble parce que économiquement tout va bien, le préfet dit le chômage baisse grâce à l'établissement thermal, tout va bien, mais oui bien sûr. Et puis la communauté fissurée à l'acte 4 au moment de la scène de l'Assemblée publique. Donc il y a un pan, ces deux actes se regardent l'un l'autre, hein. Il y a un peu un avant et après, après la découverte des eaux contaminées et avant.
Someone up on that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blend this child wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. I've looked into your eyes and they should make me feel so bright, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall, fall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small. You gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never fail. That's why my soul I never sell. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Avant-hier soir, j'ai ouvert les yeux et j'ai fini par y voir clair. Voilà pourquoi je suis là, ce soir, mes chers concitoyens. J'ai ouvert les yeux, et la première chose que j'ai vue, c'est la bêtise. L'indescriptible bêtise des autorités. Je veux seulement dire que je me suis aperçu de l'indescriptible bêtise dont les notables s'étaient rendus coupables dans les bains. Les notables, oui, je ne peux plus les supporter. Les notables, c'est comme des boucs. Dans des plantations de jeunes arbres, ça fait des dégâts partout. Ça barre la route à tous les hommes libres. Ils sont nuisibles à la société, il faut les traiter comme des animaux nuisibles.
C'est-à-dire ? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement là ?
C'est pas assez clair ?
Non.
Il faut les exterminer.
Nicolas Bouchaud, c'est ce fameux acte 4 où Stockmann pète littéralement les plombs. Et c'est ce qu'on disait il y a un moment. C'est très curieux les réactions, d'être à l'écoute des réactions dans la salle. J'imagine depuis le temps, cette pièce elle tourne depuis mars. Hein, vous avez déjà fait un certain nombre de scènes, elle va continuer jusqu'en 2020. Les publics doivent réagir aussi de manière parfois surprenante parce que c'est vrai que lorsqu'on entend le début de cette phrase, de tout le monde jubile, hein, en plus ça parle de, voilà, d'aujourd'hui, de ce qu'on a envie d'entendre, et la fin de la phrase est absolument terrifiante. Donc, comment est-ce que le public vous renvoie vos propos ?
Ben, dans un chaud effroi. C'est-à-dire qu'ils sont exactement comme vous venez de les décrire. Ils sont, enfin, ce qu'ils me disent, ceux qui viennent me parler après, c'est, ils me disent tous, ah là, on était complètement avec Stockman. Et puis, alors, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien entendu la deuxième partie de la phrase? Est-ce que c'est bien ça qu'il a dit? Et oui, c'est ça qu'il dit. Parce qu'il va, il va très loin. Là, Ibsen pousse le personnage assez loin. Puisque je disais tout à l'heure que, oui, c'est certain que Ibsen partage un certain nombre. Il dit d'ailleurs, quand il écrit la pièce, il dit, dans une lettre à je sais plus qui, il dit, je me suis bien amusé. Le docteur Stockman et moi, on s'est bien amusé. Donc, il y a quelque chose qui est assez proche d'Ibsen dans ce que dit, dans ce discours-là. Mais il va plus loin, il le pousse. Il pousse le curseur. Puisque Stockman finit par dire, à la fin de cet acte, une société basée sur le mensonge doit être détruite. Il faut exterminer, les mots sont forts, hein, tous ceux qui vivent dans le mensonge. Il faut exterminer ce peuple, il faut exterminer cette société. Il finit quand même par ce mot-là, qui pour nous, évidemment, aujourd'hui, a un sens différent de ce qu'il avait au 19e. Il ne faut pas oublier que la première représentation de la pièce en France par l'UNIEPO, à Paris, ça finit par des gens dans la salle qui crient « Vive l'anarchisme !» Parce que Stockman est à ce moment-là possiblement une figure d'anarchiste. Certainement plutôt anarchiste de droite que de gauche, mais anarchiste, c'est-à-dire anti-État, voilà. Aujourd'hui, tout ça résonne différemment pour nous. Et c'est vrai qu'on joue la pièce à un moment très particulier que nous sommes en train de vivre ici en France, qui est une chose quand même très importante qui se passe depuis le mois de décembre. Voilà, donc... C'est pourquoi nous nous sommes permis à un moment à l'acte 4 de... Il y a quasiment tout le texte d'Ibsen, hein, toutes ces choses sur exterminer la société basée sur le mensonge, tout ça c'est Ibsen. Puis à un moment on a glissé une petite partie d'un auteur philosophe allemand qui s'appelle Gunther Anders, tiré de son livre qui s'appelle « La violence, oui ou non ». Voilà. Où Anders, en 80, répond à un journaliste allemand sur des faits écologiques, hein. Et c'est l'époque de Tchernobyl, et il dit maintenant faut arrêter, je prône la violence, je suis pacifiste, mais je prône la violence, parce qu'il faut arrêter ces politiques qui s'accommodent de notre possible extermination.
L'empoisonnement de la terre, de l'air, de l'eau, la transformation de nos régions en champs de ruines contaminées, nous sommes menacés par des gens qui s'accommodent de ce risque. Des gens qui ne peuvent penser que techniquement et factuellement, économiquement et commercialement. Nous sommes donc dans un état d'urgence. Et pour répondre à cet état d'urgence, il faut renoncer à notre renoncement à la violence.
Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est terminé, c'est plus possible de résister efficacement avec la manière douce, Hofstadt. Il est complètement fou, celui qui croit qu'il va pouvoir faire changer d'avis des hauts fonctionnaires tout puissants en offrant des petits bouquets de pâquerettes à des policiers qui de toute façon ne pourront pas les recevoir parce qu'ils ont leur flashball à la main. Ou alors en mettant des petites mains dans d'autres petites mains pour former une chaîne humaine. Ou alors en multipliant les jours de grève de la faim. Les contestataires, quand ils se retrouvent pour manifester, ils oublient pourquoi ils se retrouvent. Mais moi je vais vous dire, ils se retrouvent parce qu'ils ont peur. Et qu'ils ont besoin de faire quelque chose ensemble contre ce qui leur fait peur. Mais dès que des millions de gens sont ensemble, ils oublient qu'ils ont peur. Alors il en ressort automatiquement une fête populaire et joyeuse. Alors il y a des saucisses.
Jean-François Civadier, donc ça, ce sont les extraits d'Anders qui s'appliquent assez bien d'ailleurs aux propos d'Ibsen. Ibsen, il est au fond, il est assez présent dans ce texte. Il était lui aussi devenu une sorte d'anarchiste prenant quoi d'ailleurs? Prenant pas grand chose.
Moi, je Ibsen, j'ai pas trop envie de fréquenter cet homme-là. Hein. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, ce qui est troublant dans le discours de l'acte 4, c'est qu'il passe tout à coup à des propos qui pourraient être ceux d'un radical de gauche, à tout à coup quelqu'un qui serait à l'extrême de la droite. Mais pour revenir sur cette chose de Gunther Anders et de la violence, c'est quand même incroyable de voir à quel point ce débat sur la violence est est actuel aujourd'hui et a même vraiment pris le pas sur le débat sur les vraies revendications des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de ça, ça crée un malaise énorme sur est-ce qu'on a le droit d'utiliser la violence comme légitime défense? C'est un sujet qui est totalement tabou sur les plateaux de télévision, par exemple, quand il y a des débats sur les Gilets jaunes. Et donc, c'est pour ça que quand ce texte et quand Nicolas a ressorti ce texte de sa bibliothèque, moi, j'ai tout de suite sauté dessus parce que je me disais que cette question-là, elle me troublait vraiment moi-même à un endroit très, c'était un endroit très, très difficile à expliquer, à gérer, etc. Et je pense que c'est vraiment que, par exemple, la France, elle s'est divisée en deux avec la question des Gilets jaunes, notamment à cause de cette question de violence, de comprendre la violence ou de la condamner, etc.
Et justement, vous avez parfois été surpris des réactions de la salle. Est-ce qu'il y a parfois des approbations venues du public qui, à froid, peuvent être pris quand même comme des choses un peu surprenantes?
Non, enfin, quand Nicolas dit il faut renoncer à notre renoncement à la violence, il y a plutôt une espèce de silence dans la salle que nous, on essaie d'appuyer aussi nous-mêmes. Et par exemple, voilà, samedi dernier, mais ça n'a pas vraiment rapport, en fait, il y a une spectatrice qui a pris la parole en disant sur le mot flashball, en disant qu'il fallait pas politiser le théâtre et surtout pas toucher au classique. Donc c'était assez drôle parce qu'elle a réquisitionné la parole pendant au moins 2 minutes.
Mais c'était un tout autre débat, en fait.
Ouais.
C'était un débat de respect du texte.
Mais il y a aussi, d'ailleurs, dans votre façon de mettre en scène Un ennemi du peuple, il y a aussi une interrogation sur le théâtre. Alors, on va l'écouter avant d'en parler.
Un jour, après une représentation, il y a une directrice de théâtre qui me vient me voir, me saute dessus. Elle me dit « Alors, eh bien, mon public !» Voilà, c'est fini. La boucle était bouclée. Voilà, le public est devenu le centre de la cérémonie. Mais à force de mettre le public au centre, à force de le caresser dans le sens du poil, à force de l'inviter à parler, à force de l'inviter à danser, à force de lui servir des coudes rouges, et le public est devenu une masse molle. Mais non, mais c'est vrai, éternellement satisfaite, béatement satisfaite. C'est tragique. Moi, je vois des spectacles magnifiques, les gens applaudissent, d'accord. Je vois des spectacles exécrables, les gens applaudissent pareil.
Nicolas Bouchaud, de qui est cette partie du texte?
De qui est ce truc impossible?
Ouais.
Ben, ça, c'est un texte que j'ai improvisé en répétition. Voilà.
Mais ça fonctionne super bien, en fait.
Oui, parce qu'on pensait que c'était assez proche de... c'est très proche de la situation du personnage qui, comme on l'a dit précédemment, se fissure grandement, gravement, se pète les plombs, comme on dit. Et que donc, c'était un moment intéressant de passer par le théâtre, de repasser par le théâtre. Et évidemment, le rapport public, puisque dans cette improvisation, je dis, moi, j'en peux plus du rapport public.
Que vous avez beaucoup pratiqué.
Ça fait 20 ans que je fais du rapport public, j'en peux plus, parce que les acteurs qui font du rapport public, ils oublient ce qu'ils ont à jouer, ils oublient la situation, ils oublient leur partenaire, etc. etc.
Et en donc, plus, on boit du mauvais champagne, ce qui n'est pas agréable pour le public.
En plus, on boit du mauvais champagne et tout ça. Et voilà, et à force de mettre le public, et l'histoire de la directrice de théâtre qui était venue me voir à la fin de mon présentation, c'est tout à fait vrai. J'étais à peine, j'avais fini de m'habiller, m'avait vraiment sauté dessus en me disant « Il est quand même extraordinaire, mon public !» Et là, j'ai dit « Bon, c'est terminé, quoi. Si c'est le public qui est au centre, alors voilà. » Et puis après, voilà, dans l'impro, les choses viennent comme ça, et d'où la réflexion. Je vois des spectacles extraordinaires, je applaudis. Je vois des spectacles terrifiants, je applaudis. C'est pareil. Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, je confirme.
Et ce qui est troublant. Moi, ça me trouble à chaque fois, ça.
Alors, oui, moi qui fais beaucoup au théâtre, ben c'est oui. Vrai. Bon, mais après tout, c'est mon goût. Je suis atterrée quand on applaudit ce que j'ai trouvé un mauvais spectacle. Mais au fond, ce n'est que mon goût. Peut-être que les gens trouvent ça bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est eux qui ont raison et moi qui ai tort.
Absolument. Mais c'était une façon amusante de s'interroger sur... Je pense que le théâtre reste le théâtre et il reste l'endroit des acteurs et tout ça. Hein. Mais c'était intéressant de se dire, depuis quelques années, il y a tellement de choses vers le public que, voilà, peut-être qu'il y a une façon de les rassasier comme ça, qui est, de ne pas les inquiéter, de ne plus trop les inquiéter. Voilà, c'était une question
mais
que je me posais.
Et d'ailleurs, Jean-François Sivadier le dit dans la plupart des interviews qu'il a données, que c'était cette pièce est trop tragique pour la monter en tragédie, il faut la monter en comédie. Et il y a dans la salle des rires, mais des rires francs, des rires... moi, je suis plus gênée par les rires de gens qui se tiennent les côtes, littéralement, en écoutant et en regardant cette pièce qui est absolument terrifiante et glaçante. Hein.
Je pense que elle est encore plus drôle. Enfin, je pense que nous, on n'a pas spécialement cherché le rire dans le travail, d'ailleurs. Et nous, on a été vraiment surpris le jour de la première quand les gens se marraient autant. Je pense qu'il y a une espèce de délivrance à entendre des choses ignobles. Des choses qui nous font pas du tout rire quand on les imagine dans la tête des gens qui nous gouvernent, par exemple la phrase du préfet au début, le fardeau de la pauvreté
cesse de peser sur les classes riches.
Voilà, c'est quand même une phrase absolument terrifiante, et là les gens se marrent comme à Guignol en entendant une chose dont ils sont eux-mêmes victimes dans la vie de tous les jours. Donc il y a pas seulement ça. Et donc, je pense que la pièce, elle est trop. Il y a un côté trop. Et comme il n'y a pas de grand débat, en fait, c'est vraiment les sujets sont simplement évoqués et passent très vite, et la pièce va très vite, comme ça, il y a un côté, le spectateur est attaqué au corps, quoi. Enfin, il y a une espèce d'électricité qui passe dans la salle où on se dit, c'est pas possible, une espèce de concentré de tout ce qui, aujourd'hui, produit notre cauchemar. Je sais pas comment dire.
Eh bien, en tout cas, c'est une pièce qui fait parler et qui est à voir. Alors, en ce moment, c'est à l'Odéon jusqu'au 15 juin. Ensuite, il y aura une énorme tournée absolument dans toutes les villes des régions jusqu'en 2020. Ça se terminera en février.
Je vais peut-être citer les acteurs.
Ah oui, oui, non, mais c'est pas fini. J'avais pas fini. Non. J'avais prévu de le faire. D'accord. Donc, ça se termine en février à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et sur scène, bien sûr, vous pouvez voir, outre Nicolas Bouchaud, Sharif Andoura, Cyril Botorel, Stéphane Butel, dont on a déjà parlé, Cyprien Colombo, Vincent Guédon, formidable qu'on connaît déjà, Jeanne Lepers et Agnès Sourdillon, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps.
Et Véronique Timsit a travaillé avec nous à la collaboration artistique, comme d'habitude.
Merci à vous, Nicolas Bouchaud, Jean-François Sivadier.
Merci, Kathleen.
Au revoir.